Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, un chiffre d'abord. 900. Oui, l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui marque le 900e numéro inédit d'affaires sensibles depuis la création de ce programme fin août 2014. 900 récits parmi lesquels vous pouvez puiser à satiété pour votre collection de podcasts, de connaissances, de souvenirs éventuellement. Voilà pour le catalogue. Pour aujourd'hui, voici les ingrédients d'une nouvelle histoire. Prenez quelques gouttes de Tzahal, l'armée israélienne, un nuage de CIA, un dossier caché à l'ambassade des États-Unis de Khartoum au Soudan, une poignée de mercenaires, une tribu au rite séculaire, et ajoutez-y le désir des forces soudanaises de s'affranchir de la pression éthiopienne en échange d'une vente d'armes. Voici le cocktail géopolitique le plus détonnant du début des années 80. Une histoire folle qui prend pour nom Opération Moïse, un nom qui fait sens, puisqu'il se réfère, selon les textes religieux, à la sortie du peuple juif d'Égypte et de sa condition d'esclave grâce à Moïse, ce que les juifs commémorent chaque année au printemps pendant Pessah. Ici, l'histoire commence en 1984 de notre ère. Et les juifs en question ne sont plus exactement des esclaves, non. Simplement une tribu à part, les Falachas, une communauté singulière, victime de la guerre qui sévit alors entre l'Éthiopie et son voisin le Soudan, sur fond d'emprise soviétique, une guerre doublée bientôt d'une famine. Alors, qui sont ces juifs coincés depuis des siècles au fond de l'Éthiopie et comment l'armée israélienne est-elle parvenue à organiser en pleine guerre froide leur exfiltration ? Notre invité aujourd'hui, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris, fondateur des rencontres géopolitiques annuelles de Trouville et auteur de l'Atlas des frontières paru très récemment chez Autrement. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Sophie Bobert, coordination Christophe Barrère, réalisation Flora Bernard.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Vendredi, jour d'Allah, le général Loumeri va prier à la mosquée. Le chef d'État soudanais est un musulman convaincu. C'est une des raisons pour lesquelles il n'aime pas le communisme athée. Comment voyez-vous l'avenir des relations entre le Soudan et l'URSS ? Nous n'acceptons pas qu'un pays étranger puisse se mêler de nos affaires. Les Russes ont trompé notre confiance et nous ne sommes pas près de l'oublier. Si Moscou continue de nous critiquer, nous romprons nos relations s'il le faut. Quant aux experts, il n'y a pas que l'URSS, contrairement à ce qu'elle semble croire, qui peut nous en fournir. Nous avons d'autres amis.
Août 1971. Tandis qu'en Ouganda, Amin Dada prend le pouvoir et met en place une dictature sanglante, l'Éthiopie, pays voisin, confie le pouvoir au colonel Mengistu et à son régime autoritaire nommé le Derg, tandis qu'au Soudan, Gafar Nimeiri, que nous venons d'entendre, vient d'échapper à une tentative de coup d'état pro-soviétique et depuis, il se méfie de Moscou comme de la peste, préférant se rapprocher de la Chine maoïste ou des États-Unis. Dans les années 70, cette région qu'on appelle la Corne de l'Afrique connaît des bouleversements qui vont durablement marquer la géopolitique. D'autant qu'à la Maison-Blanche, le désarroi est profond. Suite au scandale Watergate, les Américains assistent à la démission de Nixon tout en subissant les premières secousses du choc pétrolier. En outre, ils peinent à se dégager du bourbier vietnamien et ils perdent beaucoup de leur aura. C'est ainsi que facilement l'URSS étend son emprise sur l'Afrique et que l'Éthiopie adopte une constitution inspirée de la constitution soviétique alors que son voisin soudanais, nous l'avons entendu lui, s'en méfie. C'est dans ce contexte tendu que le dictateur éthiopien Mengistu lance en 78 une campagne de répression nommée « Terreur rouge » au cours de laquelle ses opposants sont tous exécutés. Cet épisode marque aussi le début d'une détérioration de l'économie qui mène peu à peu le pays, sécheresse et dents, à une grande famine. Le 23 octobre 1984, la BBC diffuse un reportage consacré à cette catastrophe. Les images, insoutenables, sont reprises par les médias du monde entier.
Aujourd'hui, près de 6 millions d'Éthiopiens souffrent de la faim. La famine est encore plus grave que celle qui, il y a 10 ans, amena la chute de l'empereur Haïlé Selassie et fit 200 000 victimes. Depuis le début de l'année 1984, la faim a tué plusieurs dizaines de milliers de personnes. 500 000 autres risquent de mourir avant la fin de 1985. Parmi les mesures qu'il vient de prendre, le gouvernement a ordonné le déplacement des populations du nord vers le sud. Cette décision, qui doit toucher 2,5 millions d'individus, a pris effet en novembre. À Arbou, dans ce stade de football transformé en camp de transit, sans aucune structure médicale, 4000 personnes attendent leur départ. Du côté des responsables des organisations internationales, on estime que ce transfert d'une partie de la population des zones stériles du nord vers les zones plus fertiles du sud peut représenter un début de solution. Elles estiment également qu'elles sont d'ordre politique.
Une solution d'ordre politique qui se traduit par le déplacement des populations envoyées vers le sud dans des grandes fortunes, tandis que les pays occidentaux s'organisent via les ONG pour envoyer des tonnes de vivres et de matériel médical d'urgence que le régime d'Addis Abeba, lui, s'obstine à refuser. Mais il faut faire vite, car des milliers d'Éthiopiens sont victimes de l'idéologie meurtrifère de leurs dirigeants et beaucoup meurent d'épuisement en chemin. Le monde entier s'indigne. Parmi les victimes, une tribu tente, elle aussi, de converger vers le sud en direction de Khartoum, un groupe social, comment dire, à part. Nommé Falacha, nom qui dans la langue locale signifie d'après un édit du XIVe siècle non-chrétien et par là même immigré, errant, cette tribu est longtemps restée secrète. Inconnu même, jusqu'en 1868, jusqu'à ce que l'orientaliste Joseph Halevi rencontre cette communauté qui se dit juive et qui vit depuis des siècles dans le plus grand dédoublement aux confins d'Abyssinie. Des recherches sont alors menées pour retracer son passé. Et là, plusieurs hypothèses émergent. Migration d'une population juive yéménite ayant traversé la mer Rouge, conversion au judaïsme des populations autochtones par des missionnaires, ou encore, descendance du roi Salomon et de la mythique reine de Saba. Rien ne peut être moins sûr, puisque nous sommes là, non pas dans l'histoire, mais dans les écrits religieux, hormis le fait que ces Falachas ont toujours refusé de renoncer à leurs croyances, ils se disent juifs et ils le resteront. Mais bien que le syncrétisme religieux soit répandu en Éthiopie, un antisémitisme virulent y sévit, accentué par l'arrivée en 1977 du régime pro-soviétique de Mengistu. Et les accusations idéologiques de collusion avec l'État d'Israël n'arrangent rien. Synagogues et maisons incendiées, conversions forcées, jusqu'à cette grande famine de 84 qui pousse les Falachas, eux aussi, à fuir vers les ONG à pied. Mais qui se soucie de leur sort ? Certaines associations juives américaines, comme la EJ, Association of Ethiopian Jews, ou encore le JDC, Joint Distribution Committee, oui, mais en Israël. Eh bien, l'existence de ces Falachas se révèle délicate. Car cela fait plusieurs années que la judaïté de ces tribus pose question dans les cercles rabbiniques. Plus encore, elle fait furieusement débat entre les ultra-orthodoxes et les libéraux. Jusqu'à ce qu'en mars 73, ils soient enfin reconnus comme des juifs à part entière, descendants de la tribu perdue des Dan par le grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef, ainsi que par le premier ministre Menachem Begin. Être reconnu juif implique alors, pour chacun de ces Falachas, le droit au retour, inaliénable et sacré en terre d'Israël, une loi votée le 5 juillet 1950 par la Knesset, qui garantit à chaque juif le droit d'immigrer, d'obtenir un visa ainsi que des aides pour s'intégrer. Une intégration qui coûte cher au pays. Il n'empêche, en cette année 84, alerté par leur sort dramatique, Shimon Peres, qui dirige la toute nouvelle coalition gouvernementale et dont on connaît l'engagement humaniste, prend la décision d'organiser leur sauvetage.
Nous ne nous reposerons pas et nous ne nous tairons pas jusqu'à ce que tous nos frères, les enfants d'Israël, aient rejoint Israël.
Ça, c'est la volonté politique. Reste à la traduire dans les faits. Mais l'opération sauvetage des Falachas est difficile à organiser. Environ 4000 d'entre eux périssent avant d'atteindre les camps du Soudan. Leur recensement est erratique. Sans parler de la mauvaise volonté du gouvernement soudanais, lui aussi farouchement anti-israélien. Les services secrets américains et israéliens redoublent donc d'efforts pour le faire plier. On lui promet des ventes d'armes et un soutien diplomatique contre son voisin éthiopien s'il ferme les yeux sur le départ des Juifs. Mais une fois Nimeiri neutralisé, concrètement, comment faire? Quels avions emprunter, sachant que l'Éthiopie et le Soudan refusent à la compagnie israélienne El Al le droit de se poser? C'est ainsi qu'à 7000 km de Khartoum, un ingénieur belge entend son téléphone sonner. 36 ans plus tard, sa femme Aline Gittelmann se souvient.
Un jour, Georges, mon mari, rentre à la maison et comme on travaillait ensemble, j'étais au courant de tous les événements, petits ou grands, qui nous arrivaient. Nous avions cette compagnie aérienne depuis 71. Et il vient, me dit, écoute, je viens de recevoir un coup de fil de quelqu'un d'Israël. Et j'ai rendez-vous avec lui dans un hôtel à Bruxelles. Donc, il lui a demandé s'il pourrait mettre ses avions à disposition pour faire un pont aérien entre le Soudan et Israël en passant par la Belgique. Donc, il n'a pas hésité une seconde. C'est vrai que c'était un petit peu, il y avait du danger, sûrement, parce que c'était complètement secret. Et il fallait pas que la presse internationale en parle. Mais c'est une fois dans votre vie que vous recevez la possibilité de faire une mitzvah comme ça. Il n'est pas question d'hésiter. Qui sauve une vie, sauve l'humanité. Alors pour des dizaines de milliers de juifs éthiopiens, il n'y avait pas à hésiter.
Un rendez-vous est donc organisé entre Ephraïm Halevi, un haut gradé du Mossad, et Georges Gutelmann, propriétaire d'une compagnie aérienne belge spécialisée dans les pèlerinages à la Mecque. Ensemble, ils organisent donc le pont aérien entre Khartoum et Tel Aviv dans le plus grand secret. C'est l'opération Moïse. Tout est prêt. Elle peut commencer.
Exercise robbery, vex the poor and needy. They are polluting in their way, and will take off your crown. Remove your diadem, exalting that is low. Neither do they regard the God of their fathers. They have no Isaiah for woman. They exalt horses, they covet our fields, and them take them by violence. They oppress a man in his house, even his heritage. They try to put a pity to my mouth that I might obey and go whichever way you say and say whatever you say, say. But I know your words when negatives did. Even though you keep on holding on to my name, go ask Aristotle, go ask Plato, who built Jerusalem, go ask Pliny, go ask Plutarch, who built Jerusalem? Go ask Herodotus and Diogenes and Tacitus. Who built Jerusalem? Ethiopia built Jerusalem. When you arrive at the original sites of the Temple of Solomon, about to live upon the temple site of Solomon, man was long gone, back to the mountains of Buganda, southern tip of Africa, Makalanga. No, Jando, back to the mountains of Buganda, Kenya, Ethiopia. Better Israel. Israel. Better Israel. Nazareth of Britain, better Israel. The people of your land rule oppression, exercise rapid, vex the poor and needy. They are polluted in their way, man, they take off the crown. Remove your diadem, exalting that is low. Neither did they regard the God of their fathers. They have no desire for woman, they exalt forces. They covet over fields and they take them by violence. They oppress a man in his house, even his heritage. Just say we alone. We are a lion child, I know. Better Israel. Better Israel. Better Israel. Better Israel. The people of
trapping. Vex the poor and needy. But do it in their way, and we take off your crown. And then we move them ahead of them. Exalting that is slow. Dinner, dinner, in yard. We got up their fathers. They have no desire for the woman. Them when they exalt forces. Them coming to our beach, you know. And them tempt them by violence. Them oppress a man on ya. In this arms, in this habitat. Just let me alone. So just let me alone. So just let me alone.
France Inter. Affaires sensibles.
Opération Moïse, donc. Le secret de sa réussite, c'est qu'elle doit être menée le plus discrètement possible. Alors, avec le professionnalisme du Mossad, service secret parmi les plus prestigieux au monde à l'époque, une dizaine d'agents se font passer pour des professionnels du tourisme et investissent un ancien club de vacances italien au nord de Port-Soudan, sur les bords de la mer Rouge. En quelques semaines, ils le retapent, il donne des cours de plongée aux touristes qui veulent nager avec les dauphins et il supervise l'opération menant des va-et-vient constants entre le faux club de vacances et les vrais camps de réfugiés. Le subterfuge leur permet de chiffrer, d'évaluer le nombre de candidats au départ. Puis, le grand jour arrive, ou plutôt la longue nuit. Dans l'obscurité, des camions bâchés surgissent les uns derrière les autres au camp de transit d'Umrakuba. Il faut alors rester calme, faire l'appel des voyageurs, ne pas céder à la panique. Et bientôt, les camions filent vers les pistes de l'aéroport de Khartoum, escortés par des jeeps de l'armée soudanaise. Ainsi, 8000 falachas embarquent en pleine nuit, comme le raconte Radou Mialéanou dans son livre « Va, vie et deviens », lu ici par Franz Confiac, pour le documentaire « Les hommes aux semelles de vent » diffusé sur France Culture.
Escorté par des jeeps de l'armée soudanaise, le camion pénètre dans l'enceinte de l'aéroport de Khartoum, en direction de la base militaire. Soudain, une silhouette métallique se profile dans la nuit. Le voilà donc, l'oiseau d'acier décrit dans les anciens livres. Combien de fois le Kessamra, notre chef spirituel, nous a-t-il rappelé cet extrait de la Genèse ? Je vous ai porté sur les ailes d'un grand aigle pour vous faire venir à moi. Et à présent, il est là, le grand oiseau, blanc et bleu, majestueux comme un sphinx.
Le coup du grand aigle, il y a plus de 3000 ans, selon la tradition juive, c'était bien vu. En tout cas, et dans le réel, ces hommes, femmes et enfants qui n'avaient jamais vu un avion de leur vie hallucinent. Mais pas de précipitation, non, plutôt une fébrilité anxieuse. Jusqu'à ce que les avions décollent, direction Bruxelles, puis l'aéroport de Tel Aviv, où les falachas débarquent pieds nus, sans bagages et sans autre espoir que d'être en sécurité, enfin, et accueillis. L'agence juive et le Mossad, responsables de l'opération, ne sont pas peu fiers. Pourtant, au premier jour de janvier 85, l'opération Moïse subitement s'arrête, comme le raconte Alain Monard, correspondant à Jérusalem pour France Inter.
Le porte-parole de l'agence juive vient de le confirmer ce matin. L'opération Moïse, qui avait permis depuis le mois de novembre d'acheminer 6 à 7 000 juifs éthiopiens en Israël, a dû être brutalement interrompue. Ce que redoutaient les autorités israéliennes, furieuses que le secret entourant toute l'opération depuis plus de 2 mois ait été brusquement levé jeudi, a donc fini par se produire. Et l'on ne manquera pas, bien sûr, d'accuser la presse d'être responsable de l'interruption du pont aérien, alors que des milliers de falachas attendent encore d'être évacués à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie. Pour l'agence juive, qui oublie un peu vite que c'est un de ses responsables qui a révélé toute l'affaire jeudi dernier, c'est en effet la publicité internationale donnée à l'évacuation des falachas qui a imposé l'arrêt prématuré de l'opération. Un pays comme le Soudan, qui avait fermé les yeux jusqu'à présent, peut difficilement continuer à laisser faire face aux critiques et aux accusations de collusion avec l'État hébreu, dont il commence à faire l'objet de la part des durs du monde arabe.
Rapidement, on comprend que la fuite provient de l'agence juive, celle qui organise l'arrivée des immigrants, quel que soit leur pays d'origine. Il se trouve que c'est bien l'un de ses responsables qui a eu la langue trop bien pendue lors d'une conférence de presse. Trahison savamment orchestrée pour attiser une lutte interne ou simple bourde due à un désir de com. Le haut fonctionnaire désigné coupable est immédiatement renvoyé, mais le mal est fait. Cette fuite fait le tour du monde et elle provoque un véritable scandale diplomatique. Dès le lendemain, dans les colonnes du Figaro, le journaliste René Bauduc raconte.
Le gouvernement soudanais a affirmé n'avoir rien à faire avec le pont aérien organisé, selon lui, par une organisation des Nations Unies. L'UNICEF s'est immédiatement décommandé. L'Éthiopie a accusé le Soudan de collaborer avec Israël pour obtenir une aide militaire. Le Soudan affirme la même chose au sujet de l'Éthiopie. Les Arabes accusent le Soudan de trahir la cause antisioniste et les dirigeants de l'agence juive accusent le gouvernement israélien d'avoir causé la suspension du pont aérien.
Bref, tout le monde accuse tout le monde. Une belle pagaille. Et puis, ce sont tous les pays africains qui sont en colère. Ils se sentent ridiculisés, trahis. Au micro d'Antenne 2, le reporter Philippe Rochaud recueille par exemple la colère de Sadiq Osman, l'ambassadeur du Soudan à Paris, qui se défend de toute accointance avec les sionistes.
Le Soudan ne peut jamais participer à cette opération, vu sa position dans la question palestinienne. Le Soudan, il considère toujours Israël comme un ennemi. Il ne peut pas faire peupler Israël davantage. Il est contre même le peuplement d'Israël, parce qu'Israël il occupe injustement les terres palestiniennes. La position du Soudan vis-à-vis d'Israël est claire.
Claire, vraiment ? Rien n'est moins sûr. Mais le Soudan doit garder la face, d'autant qu'au-delà de la pression soviétique, la question palestinienne prend de l'ampleur. L'enjeu est donc d'éviter à tout prix de voir le gouvernement de Khartoum s'effondrer comme un château de cartes, à l'instar du gouvernement israélien qui lui aussi affronte les critiques violentes de ses opposants. Toujours dans les colonnes du Figaro, René Bauduc précise.
Pour l'agence juive, l'affaire des juifs éthiopiens s'est transformée en une lutte à couteau tiré entre les différents échelons administratifs partagés entre les différents courants politiques, religieux ou non religieux, et le gouvernement. Au Parlement, l'opposition de droite entend déposer une motion de censure contre le gouvernement pour avoir confirmé les fuites des dirigeants de l'agence juive à la presse. Quant au gouvernement, il paraît totalement dépassé par ce problème qui s'ajoute à tant d'autres. Certains ont tout intérêt à faire porter la responsabilité à la gauche de Shimon Peres, dont dépend le bureau de presse gouvernemental.
Mais qui, en cette année 85, voudrait la peau du gouvernement Peres ? Qui serait prêt à sacrifier la cause de ces falachas, victimes de la guerre et de la famine, dans une optique purement politique ? Tout comme le bateau Exodus qui transporta les survivants de la Shoah vers Israël, l'opération Moïse devait réactualiser le credo sioniste du pays au regard de la première loi adoptée lors de sa création en 1948, la loi du retour. C'est-à-dire permettre à tout juif de rejoindre les siens sur cette terre en y consolidant l'État. Ce qu'on appelle aussi l'alia qui permet aux juifs de ne plus jamais être en minorité à la merci de dirigeants clivants ou antisémites, en somme, ne plus jamais se sentir menacés du fait de ses origines. Pourtant, et comme souvent, la réalité est moins angélique et le fait politique l'emporte. L'opération Moïse interrompue, ce sont plus de 1000 enfants qui se retrouvent en Israël séparés de leurs parents et 8000 falachas qui se retrouvent bloqués au Soudan dans la région de Gondar. Attendre. Mais attendre quoi ? Un soudain revirement diplomatique ? Une nouvelle opération menée en secret ? Pour l'heure, chacun fait profil bas. Tandis qu'à Jérusalem, posté devant le mur des lamentations, le bien nommé en cette circonstance, les falachas ne cachent pas leur amertume.
My feeling is very bad.
Why?
Because
mon impression n'est pas bonne car nos frères restés là-bas sont en mauvaise situation. Il y avait possibilité de les faire venir, mais maintenant l'opération est arrêtée. Les responsables, c'est ceux qui travaillent à l'agence juive, ceux qui ne veulent pas nous voir dans ce pays car ils connaissent notre situation et ils ont tout cassé en annonçant l'opération.
And they just destroy us this way by making this announcement.
Car pour ces falachas devenus israéliens, le choc est rude. Au-delà de leur sentiment de culpabilité d'avoir laissé derrière eux certains membres de leur famille moins chanceux, ils apprennent que le premier temple de Jérusalem n'existe plus et que leurs traditions sont archaïques. Mais surtout, en quelques heures, ils sont passés d'une vie aux traditions séculaires au monde moderne. Beaucoup ne connaissent pas l'eau courante, ni l'électricité, ignorent l'existence des immeubles, des voitures, des supermarchés. Immédiatement pris en charge par les autorités israéliennes, ils sont soignés dans des hôpitaux, puis installés dans des cités de transit près de Jérusalem ou Tel Aviv. Mais les plus âgés ont de grandes difficultés à intégrer ce nouveau mode de vie, d'autant qu'Israël moderne ne ressemble pas à la terre promise mille fois fantasmée. Sur France Culture, l'anthropologue Lisa Antebi explique.
Les Juifs éthiopiens s'imaginaient qu'ils arrivaient dans un pays biblique, de lait et de miel, où tous les gens étaient très observants, très religieux. Ils étaient très étonnés de voir, par exemple, des Israéliens laïcs qui enfreignaient, par exemple, le Shabbat. Comme je vous l'ai dit, les Juifs éthiopiens ne voyageaient pas, et de voir des gens qui conduisaient des voitures les a énormément choqués. De voir aussi des blancs, puisqu'ils pensaient que tous les juifs étaient noirs. Certains anciens pensaient aussi que le temple de Jérusalem existait encore. Donc c'était une énorme déception. Et sur le plan religieux aussi, leurs rabbins n'ont pas été reconnus par le rabbinat israélien, qui estimait qu'ils ne connaissaient pas tous les documents post-bibliques, comme le Talmud et les pratiques de la loi juive, la halakha. Donc n'ont pas accepté qu'ils célèbrent par exemple des mariages ou des enterrements en Israël. Donc ça a été un vrai affront par rapport à la dimension religieuse de cette intégration.
En outre, alors que les Éthiopiens placent les anciens au centre de la communauté, ils découvrent le modèle israélien où l'enfant est roi. Des enfants qui vivent joyeusement leur nouvelle existence. Certains délaissent l'amharique de leurs parents pour se fondre dans la langue hébraïque. D'autres s'habillent à l'occidental, dédaignant les vêtements traditionnels de leurs parents. À 18 ans, filles ou garçons, tous font leur service militaire comme les jeunes de leur âge. Parce que l'idée, c'est d'avoir l'air de vrais Israéliens, en dépit de leur peau noire. Ce qui est loin d'être évident, bien sûr, même si Israël a l'habitude d'accueillir de nouveaux arrivants. Mais ces falachas sont tellement différents. Leur niveau scolaire ou professionnel est si faible, si inadapté en réalité d'un pays moderne, un pays de son siècle. On leur trouve alors des emplois subalternes, on les loge dans des communes paupérisées. Les articles de presse diffusent par dizaines leurs témoignages amers. Au micro de Philippe Calloni sur France Inter, l'ambassadeur d'Israël en France, Ovadia Sofer, tente alors de calmer les esprits.
Évidemment, c'est une communauté qui pose beaucoup de difficultés, pas parce qu'ils sont ni Ashkenaz ni Sepharad, parce que le simple fait d'absorber des immigrants est très très difficile, mais je dois dire que d'après ce que j'ai entendu et j'ai constaté moi-même, les falachas ont une volonté de faire, de s'intégrer à la société israélienne. Ils ont une volonté extraordinaire de tout apprendre. Vous avez des difficultés d'analphabétisme, vous avez des difficultés de malnutrition, des malades, des vieillards, des enfants. Mais nous faisons ça à bras et à cœur ouvert. Nous pensons que ces Juifs vont être intégrés très rapidement, comme nous avons intégré plusieurs milliers de Juifs qui sont venus de par le monde.
Intégrer très rapidement, parole d'ambassadeur, qui toutefois souligne le caractère habituel de ces vagues d'immigration depuis la création du pays. Après les rescapés de la Shoah, d'origine ashkénaze, ce sont des vagues de yéménites, d'irakiens, de séfarades, de français ou d'américains qu'il a fallu, pour reprendre son terme, absorber et rendre aussi heureux que possible. Janvier 85, un an après cette tumultueuse opération Moïse, l'Amérique de Ronald Reagan, triomphalement réélu, reprend la main, profitant de l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev à Moscou. On le sait, ce révolutionnaire, un vrai celui-là, change les membres du Politburo, installe la perestroïka et la glasnost et calme les colères de Mengistu. Un vent nouveau commence à souffler, qui permet le succès de l'opération Josué, deuxième phase de l'opération Moïse. Et bon nombre de parents parviennent enfin à rejoindre leurs enfants. Les autres continuent d'attendre d'hypothétiques visas de sortie. Il leur faudra patienter jusqu'à la chute de l'URSS en 91, chute qui, par effet domino, entraîne la fin du régime de Mengistu, à qui les Israéliens promettent l'exfiltration vers l'étranger en échange des derniers juifs. Celle-là, c'est l'opération Salomon, qui rapatrie les 14 000 derniers falachas d'Éthiopie en l'espace de 33 heures, un vrai succès. Mais l'heure n'est plus à se féliciter ou à se demander comment absorber les derniers membres de cette tribu étrange. Qualifiés désormais d'Éthiopim, les falachas constituent une frange de la population paupérisée, certes, mais en voie d'intégration complète. Mais 1991 sonne plutôt comme l'heure d'un nouveau défi. L'exode massif des Juifs de l'ex-empire soviétique, soit 750 000 Russes qui arrivent avec leurs rites, leurs espoirs et leurs traumatismes.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le destin, les Falachas, dont nous allons parler avec notre invité Frédéric Ancel. Bonjour.
Bonjour.
Maître de conférence à Sciences Po Paris, directeur de séminaire à l'Institut français de géopolitique. Vous êtes l'auteur de nombreux livres concernant la région du Proche-Orient. La première question qui vient à l'esprit nous rattache aux jours contemporains. On reviendra sur l'histoire ensuite. Aujourd'hui, donc, les Falachas sont 130 000 en Israël, dont plus de 30 000 nés dans le pays, 30 000 sabras. Alors, sans surprise, le revenu moyen par personne des Israéliens originaires d'Éthiopie est inférieur de 40% à la moyenne, selon l'Association israélienne pour les Juifs éthiopiens. Est-ce qu'on peut parler de citoyens de seconde zone aujourd'hui en Israël, les Falachas?
Alors, sur le plan social, malheureusement, oui. Mm-hmm. Et le chiffre que vous évoquez est absolument édifiant. En réalité, sur toutes les aliotes, donc au pluriel en hébreu, hein, c'est-à-dire les alias, donc les vagues d'immigration, hein, voilà, c'est ça, depuis la création d'Israël en 48, il est très aisé de dire que l'alia des Falachas a été la plus difficile. Ça a été la plus difficile, et aujourd'hui les Falachas restent 15 ans, 20 ans, 30 ans après l'arrivée, en tout cas des premiers d'entre eux, les plus pauvres de tous ceux qui sont arrivés précédemment en Israël. Ça a été difficile pour les Russes, on pourra en reparler.
Oui, on va
ça
en
a
parler.
Été très c'est difficile c'est... pour les Marocains, à la fin des années 50 et au début des années 60. Mmh. Certaines villes de développement du sud d'Israël sont encore peuplées de gens d'origine yéménite et marocaine, qui globalement sont nettement plus pauvres que la moyenne des Israéliens. Mais personne autant que les Falachas. Donc de ce point de vue-là, oui, malheureusement, sur le plan, non pas bien sûr politique, mais sur le plan social, oui, là, cet alia a été très difficile.
Est-ce que c'est dû aussi à leur couleur de peau? Bon, Israël est par définition un pays métissé, mais à majorité blanche quand même, si je ne me trompe pas. Est-ce que leur peau noire joue un rôle dans ce déclassement?
Ça a pu jouer un rôle. Il faut bien évidemment aller voir Va vie devient. Et je vous avais évoqué tout à l'heure l'auteur qu'on a entendu d'ailleurs de ce film remarquable, qui a pointé le doigt sur quelque chose qui est très difficile à admettre pour les Israéliens, c'est-à-dire qu'il y a pu avoir entre juifs eux-mêmes, et non seulement entre juifs, mais entre citoyens israéliens, une forme de racisme. Alors, beaucoup de falachas ont été en butte à cela, et puis une difficulté d'intégration, d'absorption, dont vous avez rappelé les moteurs. On a affaire à des gens qui, pour la plupart, venaient d'il y a très exactement 2000 ans, et ils se pensaient comme naguère. La plupart ne savaient pas que le temple n'avait pas été détruit en 70 par les Romains. Donc vous imaginez, voilà. Et tout à l'heure, vous l'avez dit avec un sourire tout à fait bienvenu, les fameuses ailes de fer qu'évoque la jeunesse dans la Bible.
Le vol de l'aigle, c'était bien vu. Ouais.
Ah mais pour eux, ah non mais si vous voulez, on n'était pas dans la métaphore ni dans la parabole. Donc vous comprenez bien qu'il faut au moins une et peut-être même deux générations pour que ça se tasse. Et malheureusement, je dois dire quelque chose d'extrêmement d'extrêmement triste. Parmi les jeunes gens qui, chaque année en Israël, se suicident, vous avez un taux beaucoup plus important chez les falachas que chez les autres jeunes Israéliens.
Ça, c'est un autre chiffre saisissant.
Oui.
En tant que spécialiste de cette région, vous vous souvenez-vous du moment où vous avez découvert l'histoire fascinante de ces falachas qui, en quelques heures, ont franchi quasiment 3000 ans d'histoire?
Oui, j'étais adolescent, j'étais déjà passionné par cette région, d'ailleurs par la géopolitique de manière générale. Mais là, il y avait quelque chose, une dimension humaniste et humanitaire très très particulière.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, donc vous l'avez bien d'ailleurs rappelé tout à l'heure, et sans utiliser de trémolo, des gens qui quittent un univers géographique, mental, quasiment spirituel, historique bien sûr, tout cela sur fond de guerre froide et depuis des états viscéralement hostiles à l'état d'Israël, je veux dire, c'est à peu près unique dans l'histoire.
C'est une épopée, hein, c'est plus que l'histoire,
C'est une épopée, sachant que j'avais déjà en tant qu'ado entendu parler d'un certain nombre d'interventions israéliennes fortes. Alors évidemment c'est en TB, et puis c'est des retournements lors de guerres très difficiles comme en 73, lors de la guerre du Kippour. Mais là, on avait affaire à autre chose que de la simple géopolitique comme on le dit aujourd'hui, et donc c'était effectivement une partie d'un peuple qui en rejoint une autre, hein, avec toutes ces dimensions totalement abyssales, quoi.
30 ans, je reviens juste sur la thématique de l'intégration, on reviendra sur l'histoire des falachas après et de leur migration, mais je fais le calcul, donc 85, ça fait 35 ans, oui c'est ça, exactement, 36 ans même. Est-ce qu'on peut dire qu'au bout de 36 ans, ne pas être arrivé à cette intégration qu'on aurait pu souhaiter, c'est une sorte d'échec quand même. 35 ans qu'ils sont là, les falachas. Ça laisse le temps à les intégrer tout de même.
Oui, alors si aujourd'hui on établit le game over, si on dit bon, aujourd'hui quel est le bilan, c'est, on va dire, un semi-échec. Si on considère que les juifs d'origine marocaine sont arrivés en 59, 60, 61, ça fait beaucoup plus d'années, et pour beaucoup d'entre eux, c'est toujours un échec. Donc vous voyez, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'essaie toujours d'établir de mettre en relief chacune des alliotes. Par exemple, ça a été moins difficile avec le million de juifs d'ex-URSS. Sauf que 10 ans après leur arrivée en 89, 90, 91, à peu près tout le monde considérait que c'était un échec. Et aujourd'hui, on considère que c'est un succès. C'est-à-dire qu'il y a eu, malgré tout, si vous voulez, la deuxième génération a réussi dans des conditions tout à fait favorables, sinon spectaculaires. Mais en même temps, on ne venait pas de l'époque biblique. Les gens étaient quand même relativement formés. Les gens avaient entendu parler d'Israël depuis l'URSS, même s'ils en avaient entendu parler en mal. Bon,
mais ils savaient que c'était un pays moderne, créé en 48, voilà.
C'est ça. Alors avec tout de même, un point positif, c'est que ceux qui ont réussi à s'intégrer, aujourd'hui, fréquentent les plus hautes universités, d'ailleurs en Israël ou à l'étranger, les postes les postes militaires les plus gradés, notamment dans l'infanterie et en particulier chez les pisteurs. Donc là, vous avez des ingénieurs falachas et une ouverture plus importante sur le plan social, matrimonial, et j'ai envie de dire, et pour répondre d'ailleurs un peu à votre question de tout à l'heure. Les premières crispations à la fois religieuses et racistes d'une partie de la population manifestement se sont estompés. Donc ça, au moins, c'est quelque chose de plus favorable. Mais il reste que sur le plan social, c'est extrêmement difficile dans un pays qui, entre parenthèses, est devenu encore beaucoup plus libéral que dans les années 80. Parce que, si vous voulez, il y a ça aussi. Ils sont pas arrivés à un moment où, dans les années 30, 40, 50, 60, 70, le foyer national, puis l'État d'Israël, était considéré comme un État quasiment, quasiment communiste avec le système du kibbutz.
Oui, le kibbutz, voilà. Le laboratoire de socialisme, disait-on.
Absolument. Là, aujourd'hui, et d'ailleurs, ils sont arrivés, les pauvres falachas, au moment où, dans les années 70, fin des années 70 et 80, avec le Likoud de Menachem Begin, qui suivait d'ailleurs ce qu'on appelle le Thatcherorianisme, était devenu un pays très libéral, quoi.
D'ailleurs, petite rectification, qu'il faut toujours être précis en histoire, en 73, c'est toujours Golda Meir.
Golda Meir, absolument.
Hein, puisque elle se souvient aussi pour la guerre du Kippour, absolument. Octobre 73.
Voilà, Begin n'arrive au pouvoir qu'en 77.
Bien, voilà, c'est rectifié et c'est très bien. On se retrouve dans 3 minutes, surtout vous ne quittez pas, vous ne partez pas. On écoute Laura Cohen désormais. Je vais faire appel aux géopoliticiens, puisque je vous ai sous la main, si j'ose dire, je vais en profiter. Les falachas ont été l'objet, évidemment, de jeux géopolitiques. Alors, je sais que c'est toujours un peu compliqué, ces histoires-là, mais c'est passionnant. Est-ce que vous pouvez nous raconter quels étaient les enjeux autour des falachas pour le Soudan, l'Éthiopie, Israël et peut-être d'autres pays ?
Oui, bah d'abord pour Israël, il s'agissait, d'ailleurs vous l'avez très bien rappelé, de démontrer en interne qu'on n'abandonnait personne sur la route. Aucun juif, fut-il noir, fut-il biblique entre guillemets. Quoi. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, la démographie israélienne dans les années 80 commence à être catastrophique. Parce qu'il y a de moins en moins de olim, c'est-à-dire des gens qui font l'aliyah, donc qui vont s'installer en Israël. Et au fond, d'ailleurs le chiffre est très, très amusant, en 85, seule l'arrivée de ces 15 à 20 000 falachas permet au solde migratoire d'être positif en Israël. Alors aujourd'hui, ça a changé parce que l'Aliyah est revenue et remontée. Mais, et à l'époque, donc, on s'inquiète beaucoup à ce niveau-là. Ça, c'est le deuxième point. Trois, il s'agit de démontrer, juste après la catastrophique guerre du Liban, qu'on est encore capable de faire des choses positives, parce que le Liban en 82, ça a été un désastre. Bon, à tout point de vue. Ça, c'est pour Israël, pour faire très court. Maintenant, l'Éthiopie de Mengistu, elle est communiste, mais Mengistu, tout communiste qu'il est, il aime bien l'argent, voyez-vous. Et son pays est dans une panade, pardonnez-moi l'expression, que vous avez là aussi très très bien rappelé tout à l'heure. Il a besoin d'argent. Et les soviétiques, à l'époque, ne sont plus prêts à en donner à leurs alliés, n'en ont pratiquement plus, d'ailleurs. Et on a, bientôt, Gorbatchev arrive au pouvoir, et on va en terminé. Donc il se tourne discrètement vers les Américains. Ouais. Et on se demande chez Mengistu dans quelle mesure, en échange du départ de la liberté pour ces gueux de quitter, y compris de rejoindre l'entité sioniste, mais tout ça bien sûr entre guillemets, dans quelle mesure on ne peut pas obtenir quelques deniers. Ce en quoi d'ailleurs il sera relativement déçu. Quant au Soudan, il faut quand même rappeler qu'à l'époque c'est l'un des fers de lance de la lutte anti-israélienne. Je vous rappelle qu'après la guerre des 6 jours de 67, le 30 et 31 août 67, les trois noms de Khartoum, justement, sont exprimés par l'ensemble de la Ligue arabe. Non à l'existence d'Israël, non aux négociations avec Israël, non à la paix avec Israël. Et ça, c'est le Soudan, jusqu'à d'ailleurs un temps extrêmement récent. Mmh. Donc le fait que le Soudan du général Nimeiri, lui aussi, ait manifestement besoin d'un soutien extérieur au moment où on est en plein début de contre-choc pétrolier, et le Soudan, à l'époque, qui produit du pétrole, voit ses devises, son apport en devises s'effondrer, tout le monde a besoin, en réalité, de sortir de la crise économique dans laquelle il est. Alors, avec ou sans fantasme à l'époque, beaucoup d'États, et c'est encore vrai aujourd'hui, lorgnent immédiatement du côté américain. Du côté américain et non pas du côté israélien, mais simplement ces dictateurs pensent, à tort ou à raison, que en favorisant une quête exprimée par les Israéliens, ils vont pouvoir obtenir d'une façon ou d'une autre soit des deniers, soit d'ailleurs leur éviction par exemple d'une liste noire d'organisations ou d'états terroristes par exemple, on l'a vu encore très récemment. Donc si vous voulez, on est dans un imbroglio global et on est sur des faux paradoxes. Ce n'est pas parce que Mengistu est communiste et anti-israélien et que Nimeiri est par définition au sein de la Ligue arabe anti-israélien qu'ils vont nécessairement être pires que d'autres régimes, je pense par exemple au régime démocratique occidental de Bruno Kreisky en Autriche, qui n'a jamais favorisé le côté plateforme des juifs soviétiques qui quittaient l'URSS pour rejoindre Israël. Kreisky ne le voulait pas et craignait prétendument le terrorisme. Et pourtant, vous voyez, c'était un premier ministre d'abord qui était d'origine juive et qui était autrichien. Et donc, les faux paradoxes en géopolitique sont parfois très éclairants.
Oui, c'est ce qui fait de la géopolitique une science extrêmement subtile d'ailleurs. Alors, on va être dans le plus spectaculaire maintenant. On va écouter ensemble le commentaire de Gad Shimron. Gad Shimron est un ex-agent du Mossad qui a participé à l'opération, l'histoire qu'on a racontée, l'opération Moïse. Et il témoigne de ses souvenirs en 2018 sur le plateau de la chaîne I24. Écoutez, c'est vraiment intéressant.
Et ces juifs étaient si courageux, ceux qu'ils ont vécu en route pour Israël, l'abandon de leur village en Éthiopie, en route pour le Soudan, les pilleurs, la police, tout en parvenant à maintenir leur identité juive dans les camps, et même au cours du périple, quand nous les poussions vers les camions pour aller vers le littoral, ou vers les pistes d'envol où les attendaient les cargos de l'armée de l'air. Nous avons franchi des barrages de police, de l'armée, par tous les subterfuges et même parfois au milieu des violences. C'était tout simplement incroyable, leur discipline, leur courage. Mais il est bon aussi que cette histoire soit connue dans le monde, car on ne comprend pas que c'est l'histoire de la sortie des juifs éthiopiens de camps de réfugiés au Soudan et qui apporte un nouveau contenu au mot sionisme. Et nous l'appelons l'opération James Bond sioniste. C'est aussi le seul cas dans l'histoire de l'Afrique qu'un État occidental a recruté des espions, des avions, des bateaux et a investi des millions pour faire quitter les Africains du continent. Pas pour en faire des esclaves, mais pour les libérer.
Bon, c'est impressionnant, il y a une vraie sincérité là-dedans, peut-être un peu de politique, mais bon, il y a une vraie sincérité. Et puis il y a cette espèce de geste héroïque hein, du Mossad, d'Israël, alors on va pas tout mélanger, mais en TB, des choses comme ça. Il y a cette geste-là, je trouve,
dans ce qui est dit. Mais geste au sens extraordinairement flamboyant. Voilà. Et oui, tout à fait sincère du terme. Pensez que à l'époque, le Mossad, donc israélien, est déjà allé chercher Eichmann en Argentine mais en 60. C'est-à-dire que les Argentins étaient pas contents du tout, et Eichmann, il a fallu le trouver. Bon, dans ces mêmes années, il a fallu sortir du Maroc des centaines de milliers de personnes. Je dis, il a fallu, mais d'ailleurs, les autorités marocaines n'étaient pas du tout, ont été tout à fait positives. Mais en tout cas, on voulait aller chercher, là aussi, pour des raisons démographiques et sionistes, ces gens-là. Pensez que le Mossad, ensuite, en 74, sur décision de Golda Meir, 73 et 74, après le massacre de Munich, des Jeux Olympiques de Munich, hein, des athlètes, elle a décidé l'opération Vengeance d'Ephraïm, et le Mossad est allé un peu partout dans le monde, y compris en Europe, y compris en France, abattre les uns après les autres.
La liste Golda, c'est ça ?
Absolument, d'accord. C'est ça. La plupart des auteurs, ils ont eu presque tous les auteurs. Hein, ouais. Il y a eu Entebbe en 76, donc cette libération tout à fait spectaculaire. Donc oui, ça, les Israéliens ont toujours affirmé, les premiers ministres israéliens, de droite comme de gauche, ont toujours affirmé qu'Israël avait le bras long. Et que de toute façon, on ne pouvait pas porter tort à Israël, bien évidemment, mais aux Juifs de manière générale dans le monde, sans subir potentiellement la riposte des Israéliens. Et si vous voulez, d'un point de vue strictement géopolitique, et là encore si on laisse un peu les trémolos de côté, c'est intéressant, parce que ça porte un nom, c'est la dissuasion.
Oui, absolument. Bon, alors il nous reste 2 minutes, c'est pas beaucoup, hein, pour parler d'Israël aujourd'hui, de l'après-Netanyahou. Est-ce que nous sommes vraiment dans un après-Netanyahou d'ailleurs ? Où va Israël là, maintenant ?
On est dans un à côté et après Netanyahou. À côté parce que la coalition qui s'est mise au pouvoir, qui est très 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 baroque, très composite et qui n'a qu'une seule voix de majorité sur 120, en laquelle je crois d'ailleurs pas mal justement.
C'est un régime parlementaire et parfois les régimes parlementaires fonctionnent, contrairement à ce que nous disons égocentrés sur notre constitution. On pense que tous les régimes parlementaires sont bordéliques. C'est pas vrai. Bref, parenthèse fermée.
En tout cas, c'est un bordel organisé. Je reprends votre expression et je ferme les guillemets. Et le mode de scrutin est à la proportionnelle intégrale, donc évidemment, l'Israël est une démocratie parfaitement parlementaire, qui pourrait rappeler à certains de vos auditeurs la 4ème République, par exemple, bon, où les gouvernements changeaient tous les 6 mois. Donc, on a un pendant après Netanyahou, c'est-à-dire que, en fait, les deux moteurs de cette coalition sont les suivants, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Un, la détestation de Netanyahou, et la volonté de rester ensemble tant qu'il n'a pas été condamné, or pour l'instant, il n'a pas encore été condamné. Un, et deux, le social. Ouais. Et la boucle sera bouclée. Parce que Netanyahou a fait beaucoup de choses, qu'on soit d'accord ou pas, et beaucoup d'Israéliens sont d'accord, d'autres ne le sont pas, avec le bilan de Netanyahou. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un ultra-libéral parfaitement assumé, qui, depuis un peu plus de 10 ans, sachant qu'il avait déjà été au pouvoir de 96 à 99, a toujours délaissé assez largement, mais il l'assume, hein, le social. Or, près d'un tiers des Israéliens vivent sous le seuil de pauvreté, alors même que l'État d'Israël n'a jamais été aussi riche et il vient d'entrer dans le top 17 ou 18 des économies mondiales, notamment grâce au high-tech. Et cette coalition-là, qui va de la droite nationaliste dure à la gauche radicale, et même d'ailleurs aux partis arabes, elle veut faire davantage de social. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, et c'est même une certitude, les falachas, parmi les autres Israéliens, juifs, arabes, et donc eux aussi les falachas, juifs, devront vraisemblablement bénéficier dans les prochains mois, les prochaines années.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, cher Frédéric Ancel. Merci infiniment.
Merci à vous.
Pour tous vos éclairages. Au revoir. À bientôt, j'espère.
À bientôt.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les Falachas, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Sybille Clémence.